Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de vacances. À la fin du mois de juin, j'ai profité d'avoir un petit peu de temps pour aller passer quelques jours à Paris. C'est pas la première fois que je visite cette ville, alors c'était l'occasion de découvrir de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux endroits et d'essayer d'éviter la foule des touristes. À la base, je pensais vous parler d'une peintre que j'ai redécouverte pendant ce voyage. Elle s'appelle Suzanne Valadon. Je vais quand même vous parler d'elle, mais un peu plus tard dans cet épisode. Puisque, quand j'étais à Paris, l'un des endroits que j'ai visité, c'était l'atelier de cette artiste. Il se trouve au musée de Montmartre. Si vous connaissez ce quartier, vous savez qu'il est très animé et qu'il attire de nombreux visiteurs, notamment autour du Sacré-Cœur. Et pourtant, j'ai l'impression que ce musée reste un endroit assez calme. Si vous êtes comme moi, si vous aimez pas trop la foule, ça désigne un grand nombre de personnes, quand beaucoup de personnes se rassemblent quelque part. Si vous êtes comme moi, si vous préférez le calme, vous trouverez peut-être un peu d'inspiration pour vos prochaines vacances. Dans cet épisode, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire à Paris en 36 heures? D'abord, je vais vous raconter ce que j'ai fait pendant les 3 jours que j'ai passé dans la capitale. Ensuite, on va se demander qui était Suzanne Valadon. Et pour finir, on va voir que cette peintre nous fait réfléchir à plein de questions contemporaines. Pendant longtemps, on a oublié qui était Suzanne Valadon, alors qu'elle était connue et reconnue de son vivant. Pour commencer, je vais donc vous raconter ce que j'ai fait à Paris pendant les 3 jours que j'y ai passé, en espérant que ça vous donne des idées. Cette première partie est inspirée d'une conversation que j'ai eue avec une de mes élèves. Elle était de passage en France et on s'est vus pour prendre un café. En fait, c'est en partie pour la voir que j'ai organisé mon voyage à ce moment-là. Je m'arrête un instant sur une expression que je viens d'utiliser. Être de passage. J'étais de passage à Paris, ça veut dire que je suis pas restée très longtemps. Pour cette première partie, je vous invite à imaginer qu'on est assis à la terrasse d'un café et que vous venez de me poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait à Paris? Eh bien, mon voyage commence un dimanche matin. Avec mon mari, on a pris le train à 7h39. Le train, ça reste le moyen de transport le plus écolo et le moins polluant. Et personnellement, j'aime beaucoup l'expérience du train. J'aime regarder le paysage, laisser mon esprit vagabonder, écouter des podcasts ou lire un livre. À peu près 4 heures plus tard, on est arrivé à Paris. À peu près, ça veut dire environ. Et on a pris le métro pour rejoindre ma petite sœur qui nous a gentiment accueillis dans son studio. Et c'est tout pour le dimanche. J'étais assez fatiguée du voyage et il faisait très chaud à Paris ce jour-là. Après avoir fait quelques courses chez Franprix, c'est une chaîne de supermarchés en France, on a passé notre dimanche après-midi au calme. En fait, la première vraie journée de ces petites vacances, c'était le lendemain. Le lundi. Il y a un mot qui résume les différents endroits qu'on a visités. C'est le mot « atelier ». Pour commencer, on s'est dirigé vers le centre Pompidou. Mais je voulais pas visiter le musée. Je voulais visiter l'atelier Brancusi. Constantin Brancusi était un sculpteur important du XXe siècle. Il est né en Roumanie, mais il a vécu à Paris pendant une cinquantaine d'années. Et c'est là qu'il a créé la plus grande partie de son œuvre. Quand on est arrivé au Centre Pompidou, je savais pas exactement où se trouvait l'atelier. On est entré dans le musée, j'ai regardé autour de moi, et comme je voyais aucune information, je suis allée sur le site internet du Centre Pompidou. Et là, qu'est-ce que je vois ? L'atelier était fermé ce jour-là. Mais l'histoire n'est pas finie. On est sorti du musée, j'ai regardé sur la droite, et l'atelier était juste là. C'est impossible de le manquer. Donc, je dis à mon mari, « Viens, on va jeter un œil de l'extérieur. » Jeter un œil, ça signifie « regarder rapidement ». Et quand on s'est retrouvé devant les portes, eh bien, l'atelier était ouvert. Si vous êtes dans le coin, c'est vraiment un espace à visiter. L'atelier de Brancusi a été reconstitué dans un bâtiment assez petit, très lumineux. C'est un espace à l'écart du bruit et de l'agitation de la rue. Qu'on soit touché par les sculptures de Brancusi ou pas, il y a toujours un truc fascinant, je trouve, dans le fait de pouvoir voir l'espace de création d'un artiste. Avant de continuer, je veux attirer votre attention sur une différence entre l'oral et l'écrit en français. À l'oral, « il y a » devient « y a ». Il y a toujours un truc fascinant. Un peu plus tôt, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit « je suis allée sur le site internet du Centre Pompidou ».« Je suis » devient « je suis » et « je ne sais pas » devient « je sais pas » à l'oral. À travers ce podcast, je vous invite aussi à prêter attention à ces petites différences. Après ça, je voulais faire un tour dans la fameuse librairie anglophone Shakespeare et compagnie, parce que je cherchais un livre bien précis et je savais que cette librairie l'avait en stock. En chemin, on s'est arrêté dans un café où j'ai bu l'un des meilleurs lattés de ma vie. Si vous cherchez un bon café dans le 3e arrondissement, je vous recommande le café Loustique. Quand on est arrivé devant Shakespeare et compagnie, on a passé notre chemin. Il fallait faire la queue pour pouvoir entrer. Il y avait du monde partout. J'imagine que quand vous venez en France, c'est pas forcément pour faire le tour des librairies anglophones de la ville, mais je mentionne quand même la dernière adresse de la journée. Une librairie située dans le 6e arrondissement, qui s'appelle The Red Wheelbarrow, la brouette rouge en français. La personne à l'accueil était adorable, elle avait pas le livre que je voulais, mais c'est pas grave, j'en ai pris un autre. C'est tout et c'est déjà beaucoup pour la première journée. Je vais pas vous raconter la deuxième journée, parce que c'est celle où j'ai visité le musée de Montmartre et l'atelier de Suzanne Valadon. Et je vais vous en parler un peu plus tard dans l'épisode. On termine avec la troisième et dernière journée. Avec mon élève, le matin, on s'est retrouvés dans un café près du jardin du Luxembourg. Le Tram Librairie Café. Là aussi, un endroit très sympa et j'ai passé un moment merveilleux avec mon élève. Il me restait un peu de temps, donc j'ai pris le bus jusqu'à l'Institut Giacometti. Je connaissais un peu ce sculpteur suisse. Alors, encore une fois, j'ai été captivée par la reconstitution de son atelier. Il y a une vidéo qui est diffusée où on le voit travailler. Ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. C'est assez petit, mais j'y ai passé un long moment. Et il n'y avait personne d'autre ce matin-là. Au premier étage, il y a un espace magnifique avec des sculptures et une grande bibliothèque. Voilà, c'est ma dernière recommandation, une pépite cachée dans le 14e arrondissement. Et c'est la fin de ces 3 jours à Paris. Avec mon mari, on a pris le train en fin de journée pour retrouver le calme et les grands espaces du sud-ouest. Dans un deuxième temps, on va se demander qui était Suzanne Valadon. Je dois avouer que je connaissais pas cette peintre avant de visiter le musée de Montmartre. Et pourtant, elle est un personnage majeur de la peinture française pendant la première moitié du XXe siècle. Elle était connue et reconnue de son vivant, mais petit à petit, elle a été oubliée. Ça fait seulement quelques années qu'on redécouvre son travail, grâce à plusieurs expositions, notamment aux États-Unis et en France. On peut dire qu'elle est un personnage majeur de la peinture française, d'abord parce que son visage est partout dans nos musées. Dès l'âge de 15 ans, elle est modèle pour des peintres comme Renoir ou Toulouse-Lautrec. Lorsqu'elle pose pour ces peintres, elle les regarde faire. C'est comme ça qu'elle apprend à peindre et qu'elle devient peintre à son tour. Elle n'était pas du tout destinée à devenir une grande artiste, puisqu'elle vient d'une famille très modeste. Avec sa mère, elle monte à Paris pour échapper à la misère. Pendant son enfance, elle est plus ou moins livrée à elle-même, parce que sa mère doit travailler, bien sûr, pour subvenir à leurs besoins. Être livrée à soi-même, ça veut dire être seule dans ce contexte. Suzanne Valadon se fait embaucher comme modèle pour échapper à sa condition sociale. Le problème, et en même temps la force de Suzanne Valadon, c'est qu'elle n'a pas été formée dans des écoles ou des ateliers. Elle a été formée parce qu'elle était modèle. Après tout, se former en regardant le travail des autres, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai pour la peinture, mais aussi dans d'autres domaines. Son « manque de formation », entre guillemets, a été un des obstacles de sa reconnaissance. Et pour cette raison, certains peintres refusent de la pistonner, si je peux dire ça comme ça. Pistonner une personne, ça signifie la recommander, la soutenir pour l'aider à avancer dans sa carrière, par exemple. Au fil du temps, Suzanne Valadon réussit à se faire une place. Elle développe un style très moderne et avant-gardiste pour son époque. Un lieu important dans la vie de cette peintre, c'est l'appartement où elle a vécu, sur la butte Montmartre, au 12 de la rue Cortot. Le musée de Montmartre se trouve à cette adresse aujourd'hui. Elle s'y installe en 1912 avec sa mère et deux autres peintres, son fils, Maurice Utriot, et son second mari, André Uther. Si vous visitez son atelier, vous verrez que c'est un espace où il y a beaucoup de lumière. Il y a une grande verrière qui donne sur les jardins. Cet espace était une vraie source d'inspiration pour Suzanne Valadon. C'était aussi un lieu de rencontre, un lieu chaleureux pour accueillir les amis. C'était donc à la fois un lieu de vie, mais aussi un lieu de travail. Dans ses tableaux, Suzanne Valadon s'amuse avec les stéréotypes. Elle en a assez de la représentation traditionnelle de l'odalisque. En avoir assez, ça veut dire en avoir marre, ne plus pouvoir supporter quelque chose. Le grand chef-d'œuvre de Suzanne Valadon s'appelle La Chambre bleue. Dans ce tableau, elle joue avec la figure de l'odalisque. Traditionnellement, une odalisque, c'était une esclave représentée allongée, nue ou peu habillée, pour pouvoir s'offrir à notre regard. Enfin, je dirais plutôt pour pouvoir s'offrir au regard masculin. La Chambre bleue peut être interprétée comme un nu rhabillé. C'est un tableau ultra contemporain et un parfait exemple du regard féminin. Suzanne Valadon rhabille le nu féminin. Son modèle porte un pyjama confortable, elle fume une cigarette, et surtout, le traditionnel bouquet de fleurs est remplacé par une pile de livres. L'odalisque devient une femme intellectuelle, une femme qui pense, qui fume chez elle, qui s'est rhabillée. C'est une femme aux cheveux attachés, bien en chair, loin des canons académiques de l'époque. Et surtout, elle a l'air de se ficher totalement du regard de ceux qui la fixent. Avoir l'air, ça signifie sembler. Il semble qu'elle s'en fiche totalement. Autrement dit, elle n'accorde pas d'importance à notre regard. Suzanne Valadon fait des références à l'histoire de la peinture, tout en proposant quelque chose de nouveau, signé par une femme. Un autre tableau sur lequel il y aurait plein de choses à dire, c'est « L'été » ou « Adam et Ève ». C'est un tableau à replacer dans la vie de Suzanne Valadon. Elle quitte son premier mari pour André Uther. Elle vient de le rencontrer. Suzanne et André ont environ 20 ans d'écart, ce qui est assez exceptionnel déjà à l'époque. Elle se représente avec lui dans ce tableau et elle propose une version complètement nouvelle d'Adam et Ève. Ève a l'air confiante, alors qu'on a l'impression qu'Adam est un peu gêné, pas très sûr de lui. Les personnages se tiennent la main dans un geste tendre. Dans ces tableaux, Suzanne Valadon représente son corps de manière assez réaliste. Elle s'éloigne du regard masculin qui traite la femme comme un objet. Elle peint toutes les femmes, pas seulement les blanches, et pas seulement les jeunes. J'aurais aussi pu vous parler de son autoportrait de 1931. Elle garde ce regard réaliste sur le corps de la femme. Elle se représente vieillissante. Elle a une soixantaine d'années. On la voit seins nus, portant un collier de perles. C'est une représentation sans fard, sans artifice. C'est une allégorie sur le temps qui passe, mais là encore, peint par une femme. Ce serait impossible de résumer en quelques minutes la vie et l'importance de l'œuvre de Suzanne Valadon. Alors, j'espère au moins avoir attisé votre curiosité et que ça vous donne envie d'en savoir plus sur cette peintre qui reste, encore aujourd'hui, très moderne. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va voir que Suzanne Valadon nous fait réfléchir à plein de questions contemporaines. Mais avant ça, je vous rappelle que la question qu'on se pose dans cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à Paris en 36 heures ? Je vous ai donné 2-3 idées, et sur Instagram, je vous ai aussi demandé quels sont vos endroits préférés à Paris. Parmi les réponses que j'ai reçues, il y avait le musée Rodin, le parc Monceau, le musée d'Orsay, le musée du Louvre, Montmartre ou encore marcher le long de la Seine. Et vous, qu'est-ce que vous ajouteriez à cette liste ? Quand je me suis plongée dans la vie de Suzanne Valadon, ça m'a fait réfléchir à 3 questions. Je pense d'abord à la question du regard féminin. Suzanne Valadon nous montre une vision moderne de la vie normale, du bonheur ordinaire, avec les petites choses qui ne sont pas représentées par d'autres artistes à la même période. On sent qu'elle porte un regard à la fois réaliste et tendre sur ses modèles. Je vous invite à observer l'utilisation du verbe « sentir » dans cette phrase et les différences avec le verbe « se sentir ». Par exemple, « je me sens émue » devant les tableaux de Suzanne Valadon. Après « se sentir », on utilise un adjectif. Un autre exemple, « je me suis sentie inspirée en visitant son atelier ». Le parcours de cette peintre nous amène à réfléchir à la question du regard masculin dans la peinture, mais pas seulement. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on replace si souvent les femmes dans le contexte de leur relation avec un homme ? Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on identifie Suzanne Valadon en tant qu'artiste accomplie, sans avoir à la relier aux hommes de son entourage. Pendant très longtemps, les expositions la considéraient d'abord à travers le trio infernal qu'elle formait avec son fils et son mari. Quelque part, ça fait de l'ombre à sa réussite, qui, en réalité, était bien plus forte. La dernière piste de réflexion, c'est celle du manque de visibilité des femmes. Malgré une véritable reconnaissance de son vivant, l'histoire a oublié Suzanne Valadon. Aujourd'hui, son œuvre, d'une grande modernité, revient au premier plan. Il est important que l'histoire de l'art permette de garder la mémoire de ces artistes, quelle que soit leur nationalité, leur vie ou leur genre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !